OK, on continue notre étude sur le survol des 66 livres de la Bible. Ce soir, nous allons voir l'Évangile selon Marc. Donc, juste pour faire un bref rappel concernant les images que Dieu utilise parfois comme résumer les Évangiles, on parle de Matthieu comme étant le lion. On parle de Marc comme étant le serviteur, et on parle aussi de Luc comme étant l'évangile de l'homme, et celle de Jean comme l'évangile de Dieu. Mais si vous mettez les quatre images bout à bout, c'est le roi qui est un serviteur et qui est homme et Dieu en même temps. C'est fantastique cette image-là. Je suis un peu émerveillé par tout ça. Alors, dans notre étude de l'Évangile selon Marc, nous allons examiner les points suivants. L'arrière-plan, donc l'auteur, les destinataires, le lieu et la date de composition de l'Évangile. Son contenu, son but principal, ses thèmes et sa structure littéraire, les plans du livre et quelques observations. Alors, l'arrière-plan du livre. Depuis le 19e siècle surtout, cet évangile jouit d'une faveur particulière. Considéré par beaucoup comme le premier en date, il se prête aussi, mieux que les autres, à un premier contact avec l'évangile et avec la personne de Christ qu'il dépeint à la fois comme un homme d'action et comme le Fils de Dieu et Sauveur. Donc l'auteur, l'écrit ne porte pas de nom d'auteur, mais la tradition unanime l'attribue à Jean-Marc. Jean était son nom juif, Marcus, son nom latin. Il était cousin de Barnabas. Ce dernier, et de Pierre, c'est-à-dire. Ce dernier s'appelle fils dans le même sens que Paul a appliqué ce terme à Timothée. Papias, un disciple immédiat des apôtres, nous dit que Marc est devenu le secrétaire de Pierre. Il écrivit tout ce dont il se souvint, soit les choses dites, soit les choses faites, en veillant à ne rien omettre de ce qu'il avait entendu et de ne l'altérer en rien. Cette attribution n'a jamais été sérieusement mise en doute, car bien que Marc n'ait pas été lui-même un apôtre, il a rédigé son évangile sous l'autorité de Pierre. Donc, les destinataires. Clément d'Alexandrie dit que Marc a écrit son évangile à Rome, à la demande des auditeurs de Pierre. L'examen du texte de l'évangile confirme que ses destinataires devaient être des païens convertis. L'auteur traduit pour eux des expressions araméennes que des lecteurs juifs auraient comprises. Il leur donne des explications sur des coutumes juives. Par contre, il n'y a qu'une citation de l'Ancien Testament, pas de mention de la loi et de ses relations avec la Nouvelle Alliance, pas la recommandation de Jésus aux disciples de ne pas aller vers les païens, peu d'intérêt pour l'accomplissement des prophéties, pour les discussions avec les scribes. La mention des Romains comme premier destinataire de l'Évangile est confirmée par les mots latins mis à la place des termes grecs des autres Évangiles. Donc, là, les mots qui sont utilisés, legio, speculator, quadrans, praetorium et centurio. Les Romains sont présentés sous un aspect neutre, voire favorable. Simon de Cyrène est identifié comme père d'Alexandre et de Rufus. Or, nous savons qu'un Rufus était membre de l'Église de Rome. Peut-être s'agissait-il de chrétiens menacés par la persécution, vu l'accent mis sur les souffrances dans cet évangile. Le lieu et la date de composition. Clément d'Alexandrie situe le lieu de rédaction à Rome. Mentionne la présence de Marc aux côtés de Pierre à Babylone, mais la plupart des savants pensent que ce nom est un cryptogramme pour Rome, c'est-à-dire une désignation symbolique destinée à dérouter les espions impériaux qui auraient pu intercepter la lettre. Si l'Évangile a été diffusé depuis Rome, cela explique qu'il se soit si rapidement répandu dans toute la chrétienté d'alors. La date de rédaction probable s'échelonne donc entre 50 et 68 après Jésus-Christ. Deuxième point qu'on va regarder, le contenu de l'Évangile de Marc. Le début de l'Évangile constitue en quelque sorte son programme. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Le dernier témoignage humain du livre y fera écho. C'est l'exclamation d'un Romain. Cet homme était certainement Fils de Dieu. Tout au long de l'ouvrage, la divinité de Jésus est attestée par le Père, par lui-même et par les démons. Son autorité sur les éléments naturels, aussi bien que sur la maladie et la mort, en est la preuve manifeste. Et pourtant, il est aussi pleinement homme, sujet à la fatigue et à la faim, à la déception, la colère, la tristesse, l'étonnement. Il est plein de compassion pour les foules, d'intérêt pour les enfants, comme pour la nature et la vie quotidienne de ses compatriotes. Il a souvent besoin de se retirer dans la solitude pour entretenir sa communion avec le Père. Il est Fils de Dieu et Fils de l'homme, venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Cette parole constitue une sorte de résumé de tout l'Évangile. Jésus est le serviteur souffrant, annoncé par Isaïe 53, venu pour être le sauveur du monde, payant de sa vie notre libération de l'esclavage du péché. L'ombre de la croix plane dès le départ sur son ministère et se profile à diverses reprises. Parce qu'il sait que les espérances messianiques de ses contemporains sont entachées d'idées fausses, il impose le silence aux hommes comme aux démons qui ont reconnu en lui le Messie, du moins durant la première partie de son ministère. Aussi, les réactions qu'il suscite sont-elles très diverses. Donc, Marc les note attentivement. L'étonnement, la critique, la peur, l'incrédulité, la haine, mais aussi, à trait irrésistible, la louange. Admiration, il fait tout à merveille. Ces deux sortes de réactions présagent celles que son message suscitera dans tout l'Empire romain, qu'il soit transmis oralement par Pierre ou dans un écrit par Marc, que le lecteur sache en tirer la leçon et choisir le bon côté. Troisième point, le but principal de l'Évangile de Marc. Présenter Jésus comme Sauveur et Seigneur et susciter la foi des lecteurs est le but de tout évangile. S'adressant à des Romains, Marc souligne la portée de ce salut destiné à toutes les nations. La particularité de cet évangile est d'attirer l'attention davantage sur ce que Jésus a fait que ce qu'il a dit. Ses œuvres démontrent qu'il est le Fils de Dieu. Marc rapporte 18 miracles, dont 2 inédits, et seulement 4 paraboles. Il ne prend pas le temps de retracer la généalogie de Jésus, de raconter les événements entourant sa naissance, de résumer ses discours. Il le montre en pleine action, guérissant les malades, chassant les démons, multipliant le pain pour les foules. Il relate même par 2 fois que Jésus était si occupé qu'il n'avait pas le temps de manger. En même temps, Marc ne manque pas de présenter aussi Jésus comme un enseignant. 39 fois, il lui applique le terme d'enseigner ou enseignant. Dans cet enseignement, un aspect ressort plus que d'autres, la souffrance. Jésus fut le serviteur souffrant. Ses disciples devront suivre le même chemin que lui. Le lien entre la qualité de disciple et la souffrance est fortement souligné dans tout l'Évangile. Pourquoi? Si Marc a écrit dans les années 65 à 68 à Rome, la raison est évidente, préparer les chrétiens à accepter l'idée de la souffrance liée à leur profession de foi en Christ, l'homme de douleur, habitué à la souffrance. S'il a rédigé son évangile avant la grande persécution de Néron en 64, il devait avoir suffisamment d'intuition et d'information sur ce qui se passait autour de lui et dans le monde pour prévoir la tempête qui se préparait. Pierre n'a-t-il pas écrit ses épîtres avant l'an 64, spécialement pour exhorter les chrétiens à tenir ferme dans l'épreuve? À sa façon, l'évangile de Marc complète ses épîtres pour que les chrétiens ne soient pas surpris par l'épreuve, comme s'il leur arrivait quelque chose d'anormal. Christ aussi a souffert, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Marc développe cette pensée, exaucant le vœu de son maître pour qu'après son départ, ceux qui partagent la même foi puissent se souvenir de ces choses. Quatrième point, les thèmes et la structure littéraire de Marc. Marc structure son évangile autour des déplacements géographiques de Jésus. Après l'introduction, Marc raconte le ministère de Jésus en Galilée, suivi de celui en route vers la Judée et à Jérusalem, et culminant dans sa passion et sa résurrection. C'est le plus court des évangiles. Le mot grec « eutus », signifiant « immédiatement », sert très souvent de particule de liaison pour démontrer le fait que le récit de Marc privilégie l'action dans le ministère de Jésus. Marc met en évidence la puissance et l'autorité de Jésus, l'éternel Fils de Dieu comme un enseignant sur Satan et les esprits impurs, sur le péché, sur le sabbat, sur la nature, sur la maladie, sur la mort, sur la tradition et sur le temple. Près de 40% de l'Évangile est consacré à un récit détaillé des derniers jours de la vie de Jésus et trouvant son apogée dans sa résurrection. De plusieurs façons, Marc met l'emphase sur la passion et la résurrection pour démontrer que ce sont les événements par lesquels l'ensemble du ministère de Jésus peut être évalué. Alors, si on regarde un peu le premier plan, on va prendre le plan court, le plan long, je vous le laisserai regarder par vous-même. Mais le plan court, le plan succinct, on voit que c'est divisé en deux parties. Donc, une partie où on le décrit comme dans son aspect de serviteur, et l'autre, c'est le sacrifice. Donc, on voit la présentation du serviteur, l'opposition qui va se faire au serviteur et l'instruction qui va se faire par le serviteur. Et ensuite, dans l'aspect sacrifice, il va y avoir le rejet du serviteur et va se terminer par la résurrection du serviteur. Alors là-dedans, on a partout ce que ça s'est passé, Galilée, Périe, Judée, Jérusalem, et un peu l'esprit. Et si vous voulez étudier le plan de façon... le livre de façon détaillée. C'est toujours à conseiller de lire les plans comme ça avant de commencer une lecture parce qu'on a comme une idée générale de l'ensemble de l'Évangile. Alors, on va aller au sixième point. Quelques observations sur l'Évangile de Marc. Si l'Évangile de Marc est le plus court de tous, il comprend cependant plusieurs particularités qui contribue à lui donner un caractère distinctif. Premièrement, son style, frais et vivant. Marc décrit souvent des événements passés comme s'ils se produisaient réellement à l'heure où il en parle. Pour y parvenir, il emploie une forme verbale qui, en grec, est désignée comme le présent historique. Il est également possible de s'exprimer ainsi en français. Prenons par exemple Marc 4, 38, traduit par la Bible Colombe de la manière suivante. « Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveille et lui disent, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons? » C'est ainsi qu'en grec, le présent historique est utilisé par Marc plus de 150 fois. D'autres particularités du style de Marc ajoutent également au réalisme et au caractère dramatique de son récit. L'auteur, dans beaucoup de ses phrases, donne des détails descriptifs et frappants. Donc, d'abord, le style frais et vivant. Deuxième caractéristique, les détails capables d'intéresser les Romains. Certaines particularités de l'Évangile de Marc suggèrent que l'on fit d'abord circuler ce texte à Rome. D'après Marc 15, 21, par exemple, celui qui fut chargé de porter la croix de Jésus s'appelait Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Aucun autre évangile ne nous donne le nom de ses deux fils. L'apôtre Paul mentionne également Rufus dans la lettre adressée aux membres de l'Église de Rome, Romains 16, 13. On trouve en outre d'autres passages où Marc emploie un terme latin dans la langue des Romains pour expliquer un mot grec. Lisez par exemple Marc 15, 16 où le mot praetorium sert à expliquer le mot palais. Ces quelques détails prouvent que l'Évangile convenait particulièrement à un public romain. Troisième caractéristique, c'est le secret messianique de Marc. À plusieurs reprises dans l'Évangile de Marc, Jésus mentionne à quelqu'un de ne pas dire qui il est ou ce qu'ils ont vu qui pourrait démontrer qui il est. Pourquoi Jésus voulait-il garder son identité secrète? Pour éviter qu'on le considère comme un faiseur de miracles. Il est à noter que plusieurs des paroles de Jésus furent dites après avoir accompli un miracle. Jésus ne voulait pas que les gens le suivent uniquement pour le voir faire des actions extraordinaires. Il vint comme fils de Dieu pour apporter le salut des âmes et le pardon des péchés, et non pas seulement pour guérir et faire des miracles. Autre affaire dans le secret messianique, pourquoi il voulait garder son identité secrète? Pour éviter une trop grande publicité qui aurait pu réduire ses déplacements et son ministère. Nous pouvons noter les résultats de la désobéissance des lépreux dans Marc 1, 45. Mais cet homme, s'étant en allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Autre raison, garder son identité secrète, pour éviter de nourrir une fausse notion du Messie, il est venu pour sauver les âmes, pour souffrir, pour servir et pour s'offrir en sacrifice, et non pas seulement pour déployer sa puissance. Autre raison, qui voulait garder son identité secrète, pour prévenir une mort prématurée que sa popularité aurait pu amener. Après la transfiguration qui déployait sa gloire aux disciples, Jésus leur dit de ne pas parler de cet événement. Marc 9, 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme fut ressuscité des morts. Après la résurrection de Jésus, l'identité du Messie et le caractère de sa mission est compris dans toute sa portée. Tous les disciples sont désormais invités à annoncer cette bonne nouvelle au monde. Autre point, Marc, créateur du style littéraire, du genre littéraire qu'on appelle évangile. Selon plusieurs érudits, Marc est le créateur du genre littéraire évangile, qui est un entrelacement de thèmes biographiques et kérigmatiques qui communiquent parfaitement la signification de cette figure unique de l'histoire humaine qu'est Jésus Nazareth, fils de Dieu. Le kérigme, du mot grec kérigma, qui signifie « proclamation à haute voix » de Kérix le héros, désigne l'énoncé de la foi, la profession de foi des premiers chrétiens. Il se compose de trois énoncés essentiels. Premièrement, Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu. Deuxièmement, il est ressuscité et celui qui en parle en rend témoignage personnellement. Et troisièmement, il appelle à la conversion. La structure kérigmatique de Marc aide le lecteur de l'Évangile à comprendre les événements fondamentaux du salut et les prépare à les transmettre dans leur évangélisation. Le matériau de 1.1 à 8.26, avec son insistance sur les miracles de Jésus, conduit à la déclaration de Pierre, inspirée par Dieu, quant à la vraie nature de l'homme Jésus de Nazareth. Mais immédiatement, après cette confession, vient l'affirmation des souffrances et de la mort de Jésus qui domine le reste de l'Évangile. Cette combinaison d'accents révèle une intention christologique majeure de Marc. Jésus est le Fils de Dieu souffrant et son identité ne peut vraiment être comprise qu'à la lumière de cette souffrance. Et dernier point caractéristique, c'est l'engagement du disciple. L'engagement du disciple est un autre grand thème de Marc. Les 12 y occupent une place de premier plan et fonctionnent comme un modèle proposé à la réflexion des disciples à qui Marc adresse son évangile. Certes, les 12 ne sont pas toujours présentés comme des modèles à imiter. Leur échec manifeste, bien que présent aussi dans les autres évangiles, est tout particulièrement évident chez Marc. Chez Marc, les disciples sont obtus, spirituellement faibles et incroyablement lents à comprendre. Marc présente les disciples comme des gens qui sont à la fois privilégiés et perplexes. C'est peut-être par ces deux aspects qu'ils sont des modèles des disciples de l'époque de Marc et d'aujourd'hui. Privilégiés d'appartenir au royaume, mais perplexes à propos des revers apparents que subit le royaume lorsque les chrétiens souffrent. Marc veut peut-être opposer implicitement la situation des 12 qui cherchent à suivre Jésus avant la croix et la résurrection, à celle des disciples chrétiens du moment où il est écrit. Ces derniers suivent Jésus en bénéficiant de la puissance du jour nouveau qui s'est levé, celui du salut. Trois applications sur l'Évangile de Marc. Méditons sur la grandeur infinie du Maître et de l'exemple qu'il nous a laissé quant à l'importance du service. Marc, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Deuxième application, imitons la soumission du Seigneur à son Père. Cet évangile nous permet de découvrir la véritable soumission à Dieu et nous montre la bénédiction d'une vie mise au service des autres en obéissant aux commandements divins. Chacun est appelé à accomplir une tâche. Or, le fruit dépend de notre soumission volontaire à l'autorité divine. Et troisième et dernière, si Jésus était un homme d'action exemplaire, prions l'Éternel de nous mettre à l'action pour l'avancement de son royaume. Bénissons l'Éternel pour l'Évangile de Marc, qu'il nous présente Jésus-Christ comme le serviteur souffrant. Amen. Amen.